Plutarque, Vie de Caton le Censeur. Traduction de Jacques Amyot. Marcus Caton et ses ancêtres étaient, comme l'on dit, de la ville de Tusculum. Mais avant qu'il allât à la guerre et qu'il s'entremît des affaires de la chose publique, il se tenait et vivait en quelques terres et possessions que son père lui avait laissées au pays des Sabins. Et combien qu'il sembla à plusieurs que ses prédécesseurs eussent été totalement inconnus, toutefois lui-même loue hautement son père, qui se nommait Marcus comme lui, disant qu'il avait été vaillant homme et homme de guerre, et fait aussi mention d'un autre Caton, son bisaïeul, qui, pour ses vaillances, avait souvent eu de ses capitaines les dons et prix d'honneur que les Romains ont accoutumé de donner à ceux qui ont fait quelque acte de prouesse notable en une bataille, et que, ayant perdu 5 chevaux de service en la guerre, la valeur lui en fut rendue en argent des coffres de la chose publique, parce que il s'était porté en homme de bien. Et comme la coutume de parler à Rome fut qu'ils appelaient hommes nouveaux ceux qui n'étaient point nobles de race, mais commençaient à s'ennoblir eux-mêmes et à se faire connaître par leurs vertus, on appelait Caton, pour cette cause, homme neuf, et quant à lui, il confessait bien être voirement homme neuf quant aux honneurs, office et état de la chose publique. Mais quant aux beaux faits et bons services de ses prédécesseurs, il maintenait qu'il était très ancien. Il s'appelait au commencement, en son tiers nom, Priscus. Mais depuis, à raison de son grand sens et de sa suffisance, il fut nommé Caton, parce que les Romains appellent un homme sage et qui a beaucoup vu Caton. Il était un peu roux de visage et avait les yeux perses, ainsi que donne à entendre celui qui composa ses vers en haine de lui après sa mort. Ce faux Rousseau Porcius, aux yeux perses, qui harassait et mordait tout le monde. Pluton ne veut qu'il entre en ses enfers, quoiqu'il soit mort, de peur qu'il ne lui gronde. Au demeurant, quant à la disposition de sa personne, il était merveilleusement fort et robuste, pour s'être, dès son jeune âge, accoutumé à travailler de son corps et à vivre sobrement, comme celui qui avait été nourri aux armes et à la guerre dès son commencement, de manière qu'il était également bien complexionné, et pour la force et pour la santé. Et quant à la parole, estimant que c'était un second corps et un outil non seulement honnête, mais aussi nécessaire à tout homme qui veut vivre en honneur et manier de grandes affaires, il s'exerçait à bien parler dans les petites villes et bourgs prochains de sa maison, là où il allait souvent plaider des causes et défendre en jugement ceux qui l'en requéraient, de manière qu'en peu de temps, il se rendit premièrement bon plaideur et eut la parole à commandement, et par très de temps se fit orateur éloquent. Depuis laquelle suffisance acquise, ceux qui le hantaient ordinairement commencèrent à apercevoir en lui une gravité de mœurs et de façon de faire, et une magnanimité digne d'être employée au maniement des grandes affaires, et de s'exercer en la lumière d'une chose publique souveraine, car non seulement il se garda toujours de prendre aucun salaire ni paiement mercenaire des plaidoyers qu'il faisait et des causes qu'il soutenait, mais qui plus est, il ne tenait pas compte de l'honneur que lui venait de tel exercice, comme si c'eût été le but principal où il eût prétendu, mais désirait beaucoup plus se faire connaître et estimer par l'exercice des armes et par vaillamment combattre contre les ennemis. De sorte que, dès qu'il n'était encore qu'un jeune homme, il avait déjà l'estomac tout cicatrisé de coups qu'il avait reçus en diverses batailles et rencontres contre les ennemis. Car lui-même écrit qu'il n'avait que 17 ans quand il alla premièrement à la guerre, et qu'il fut environ le temps des grandes prospérités d'Hannibal, lorsqu'il courait, brûlait et pillait toute l'Italie. Or, quand se venait au fait de combattre, sa coutume était de frapper rudement. Jamais ne bougeait le pied, ni reculait en arrière, montrait un visage terrible à l'ennemi, et lui usait de menaces en lui parlant d'une voix âpre et effroyable. ce qu'il prenait très bien et enseignait sagement aux autres à le faire ainsi, parce que telle chose, comme il disait, effraie bien souvent plus les ennemis que ne fait l'épée qu'on leur présente. En allant par pays, il cheminait à pied, portant lui-même ses armes et avait quelques serviteurs après lui, qui lui portaient ce qui lui était nécessaire pour son vivre, auquel, à ce que l'on dit, il ne se courroussa jamais pour chose qu'il lui eût apprêtée à son dîner ou à son souper, mais lui aidait lui-même le plus souvent à l'apprêter, quand il avait loisir. Après avoir fait ce que le privé soudard était tenu de faire pour la fortification du camp ou autre affaire. Il ne buvait jamais, étant à la guerre, que de l'eau, si ce n'était aucune fois qu'il se trouvait excessivement altéré, car alors il prenait un peu de vinaigre, ou bien qu'il se sentait faible, car il buvait de quelques petits vins. Or était d'aventure l'héritage de Manius Curius, celui qui gagna par 3 fois l'honneur du triomphe et la maison où il s'était anciennement tenu, prochaine des terres de Caton, lequel y allait à l'ébat bien souvent et, voyant le peu de terre qu'il y avait et comment le logis était petitement et pauvrement bâti, il pensait en lui-même quel personnage devait avoir été celui qui, étant le premier homme des Romains en son temps et ayant vaincu et dompté les plus fières et les plus belliqueuses nations d'Italie, et en ayant chassé dehors le roi Pyrrhus, labourait néanmoins et cultivait avec ses propres mains ce peu de terre et habitait en une si pauvre et si petite métairie, en laquelle, après ses 3 triomphes, des ambassadeurs envoyés de la part des Samnites l'allèrent quelquefois visiter et le trouvèrent au long de son foyer où il faisait cuire des raves, et ils lui présentèrent, de par leur communauté, une bonne quantité d'or. Mais il les renvoya avec leur or en leur disant que ceux qui se contentaient d'un tel souper n'avaient que faire d'or ni d'argent, et que quant à lui, il estimait plus honorable commander à ceux qui avaient de l'or que non pas en avoir. Caton, remémorant ces choses en lui-même, s'en retournait chez lui et se mettait de rechef à revoir tout l'état de sa maison, ses terres, sa famille, ses serres, sa dépense, et à retrancher toute superfluité, et à travailler lui-même de ses bras plus que jamais. Au surplus, quand Fabius Maximus reprit la ville de Tarente, Caton y était sous sa charge en fort grande jeunesse, là où il prit familière connaissance avec Néarque, philosophe pythagoricien, lequel il avait fort désiré ouïr deviser et discourir de la philosophie. S'il lui fit Néarque les mêmes discours que fait Platon, quand il appelle volupté la principale amorce et le plus grand appât de mal faire que les hommes aient, et quand il dit que le corps est la première peste de l'âme, et que sa guérison, sa délivrance et sa purgation sont les discours, les remontrances et les contemplations qui la retirent le plus loin des passions et affections corporelles. Caton a donc en aima encore davantage la sobriété, la tempérance et l'accoutumance à se passer et contenter de peu. Car au demeurant, on dit qu'il se mit bien tard et sur l'arrière-saison de son âge à apprendre les lettres grecques et à lire dans les livres grecs, entre lesquels il céda un peu de Thucydide, mais beaucoup plus de Démosthène à former son style et à dresser son éloquence. Et à tout le moins, ses écrits et ses livres le témoignent, qui sont ornés et enrichis d'opinions, exemples et histoires prises dans les livres grecs. Et trouve-t-on plusieurs de ses sentences et dits moraux, rencontres et réponses aiguës, qui en sont translatées de mot à mot. Or, y avait-il pour lors à Rome un personnage des plus nobles de la ville, homme d'autorité et de bon jugement pour bien connaître les semences de vertu naissantes en une jeune personne, et encore de plus grande bonté et honnêteté pour l'avancer et pousser en avant, c'était Valerius Flaccus, lequel, ayant des terres joignant à celles de Caton, et entendant le rapport que ses gens lui faisaient de ses mœurs et de sa manière de vivre, lui contant comme il labourait lui-même sa terre, et qu'il avait accoutumé de s'en aller de grand matin aux petites villes d'à l'environ avocassé et plaidé pour ceux qui s'adressaient à lui, et puis s'en retournait à sa maison, là où c'était en hiver. Il jetait seulement une jaquette sur ses épaules, et si c'était en été, il s'en allait tout nu, travailler au labourage avec ses serviteurs et ses ouvriers, puis s'asseyant avec eux à table, buvant de même vin et mangeant de même pain qu'eux, et tout plein d'autres telles façons de faire qui montraient une grande équité, modération et bonté en lui, et avec cela lui récitait aussi quelques beaux dits moraux et quelques graves sentences qu'il avait ouïes de lui. Ces choses entendues, Valerius commanda un jour qu'on l'allât se mondre à venir souper avec lui. Et, après l'avoir un peu hanté et connu, qu'il avait la nature gentille, honnête et civile, et que c'était comme une bonne plante qui n'avait besoin que d'être un peu cultivée et transplantée en meilleur et plus noble terroir, il l'exhorta et lui persuada qu'il s'en allât à Rome et se mit à haranguer en public devant le peuple romain et se mêler des affaires. Ce qu'il fit, et ne fut pas plutôt introduit, qu'il fut incontinent grandement estimé et y acquit beaucoup d'amis pour les causes qu'il défendait. Outre ce que Valerius Flaccus le poussait et mettait fort en avant par le port et la faveur qu'il lui faisait, si bien qu'il fut premièrement élu par les voix du peuple tribun militaire, c'est-à-dire capitaine de 1000 hommes de pied, et depuis quêteur, et de là en avant, étant déjà fort renommé et ayant acquis autorité et réputation grande, il fut compagnon et concurrent de Valerius Flaccus dans les principaux et plus dignes offices et magistratures de la chose publique. Car il fut créé consul avec lui, et depuis censeur. Mais pour son commencement, il choisit entre tous les anciens sénateurs romains. Quintus Fabius Maximus, auquel il se voit, et dédia tout. Et ce non pas tant pour son crédit. Encore qu'en autorité et en réputation, il surmonta tous ceux de son temps, que pour la gravité de ses mœurs et de sa vie, laquelle il se proposait comme un très digne miroir et exemple à imiter. À l'occasion de quoi, il ne feignit point d'entrer en pique et en querelle avec le grand Scipion, qui pour lors, encore qu'il fût jeune, contendait avec l'autorité, puissance et dignité de Fabius Maximus, lequel semblait porter envie à son accroissement. Car, étant Caton envoyé quêteur et surintendant des finances avec lui, quand il entreprit de passer en Afrique, et voyant qu'il l'usait de sa naturelle libéralité et magnificence accoutumée, en donnant largement sans rien épargner aux gens de guerre, il lui remontra un jour franchement que ce n'était pas en la folle dépense des deniers communs que plus il grévait et endommageait la chose publique, mais que c'était en ce qu'il altérait et corrompait l'ancienne simplicité de leurs prédécesseurs, qui voulaient que leurs soudards fussent contents de peu, là où il les accoutumait à employer aux voluptés, délices et choses superflues, et volontaires l'argent qui leur restait après avoir satisfait à leurs nécessités. Scipion lui fit réponse qu'il ne voulait point de trésorier qui le contrôlât ainsi, ni qui regardât de si près à sa dépense, parce que son intention était d'aller à la guerre à pleine voile en manière de parler, et qu'il voulait et entendait rendre compte à la chose publique des choses qu'il aurait faites, non pas de l'argent qu'il aurait dépensé. Caton, cette réponse oui, s'en retourna tout court de la Sicile à Rome, criant avec Fabius Maximus en plein Sénat qu'il faisait une dépense infinie et qu'il s'amusait à faire jouer des farces et comédies et à voir des combats de lutteurs, comme si on lui envoyait non point faire la guerre, mais pour faire jouer des jeux. S'y firent tant par leurs crieries que le Sénat commit et députa quelques-uns des tribuns du peuple pour aller voir sur les lieux et informer si les charges par eux alléguées étaient véritables, et si ainsi était, pour les ramener et faire retourner à Rome. Mais au contraire, Scipion montra au commissaire qui fut renvoyé la victoire tout évidente et assurée en l'appareil et en la provision qu'il dressait des choses nécessaires à la guerre, et que bien faisait-il bonne chère en compagnie privée avec ses amis quand les affaires lui en donnaient le loisir, mais que pour quelque libéralité et gracieuseté dont il usa envers les gens de guerre, il n'en omettait ni passait en nonchaloir chose quelconque de son devoir, ni qui fût de conséquence. Ainsi s'embarqua-t-il et se mit à la voile la droite route de l'Afrique où il allait faire la guerre. Au demeurant, pour retourner à Caton, il acquérait tous les jours de plus en plus autorité et crédit par le moyen de son éloquence, tellement que plusieurs l'appelaient le Démosthène romain. Mais toutefois, sa manière de vivre était encore bien plus renommée et plus estimée, pour autant que l'éloquence et la louange de bien dire étaient déjà le but ordinaire auquel aspiraient et tâchaient de parvenir tous les jeunes hommes romains à l'envi les uns des autres. Mais il s'en trouvait bien peu qui voulussent labourer la terre avec leurs propres mains, comme faisaient leurs anciens, souper petitement, dîner sans feu ni appareil de cuisine, ni qui se contentassent d'une robe simple et d'un logis tel quel, ni bref, qui estimassent plus le non à péter de telles délices et superfluités que les avoir ni en user. À cause que la chose publique était déjà si grande qu'elle ne pouvait plus retenir son ancienne discipline, cette pureté de son austérité première. Mais pour la longue étendue de son empire et pour le grand nombre des peuples qu'elle avait sous elle, était force qu'elle fût mêlée de plusieurs différentes façons de vivre et divers exemples de mœurs. Au moyen de quoi, ce n'était pas sans occasion que l'on avait vu la vertu de Caton en grande admiration, quand on voyait les autres incontinents recrus et rompus du travail, ou bien amollis et énervés de délices, et lui au contraire invincible de l'un et de l'autre, non seulement durant le temps qu'il fut jeune et convoiteux d'honneur, mais aussi depuis qu'il fut devenu vieux et chenu, après son consulat et son triomphe, ayant un bon et gentil champion de lutte, qui, en ayant gagné le prix, ne se laisserait point de continuer toujours son exercice jusqu'à la fin de ses jours. Car il écrit lui-même qu'il ne porta onque robe, qui n'eût coûté plus de 100 drachmes d'argent, et qu'il avait toujours bu, tant en son consulat que durant le temps qu'il avait été chef d'armée, du même vin que buvaient les manœuvres de sa maison, et que pour son souper, jamais on n'avait acheté au marché de la viande pour plus de 30 as de monnaie romaine. Encore dit-il que c'était afin qu'il eût le corps plus fort et plus dispos pour pouvoir mieux servir à la chose publique, aux affaires de la guerre. Et dit davantage qu'ayant quelquefois eu de la succession de l'un de ses amis, qu'il avait fait son héritier, une pièce de tapisserie de haute lisse que l'on apportait lors de Babylone, il la fit incontinent vendre, et que toutes les maisons qu'il avait aux champs, il n'y en avait pas une dont les murailles fussent crépies ni enduites. Et outre qu'il n'acheta onque serre plus cher que 1 500 drachmes, qui valent environ 150 écus, comme celui qui ne cherchait pas des serres délicats, ni de ceux que l'on achète pour leur beauté, mais des forts et robustes pour pouvoir porter le travail, comme des charretiers, palefreniers et des bouviers. Encore voulait-il qu'on les vendît quand ils devenaient vieux, afin qu'on ne les nourrît point inutiles. Bref, il disait que l'on n'avait jamais bon marché d'une chose dont on se pouvait bien passer, et qu'une chose dont on n'avait que faire, encore qu'elle ne coûtât 1 liard, c'était toujours beaucoup et trop lâcheté. Il voulait que l'on acquît des héritages et maisons où il y eût plus à semer et à pâturer que non pas à balayer et à arroser. Mais quant à cela, aucun disait qu'il le faisait par chicheté et par avarice. Les autres le prenaient en autre sens et disaient qu'il se retirait et se resserrait aussi étroitement pour inciter les autres par son exemple à retrancher leur superfluité en dépenses. Toutefois, de vendre ainsi les serres ou les chasser de sa maison après qu'ils sont en vieilli en votre service, ni plus ni moins que si c'était des bêtes mues, quand on a tiré le service sur toute leur vie, il me semble que cela procède d'une part trop rude et trop dure austérité de nature, et qui pense que d'homme à homme, il n'y ait point de plus grande société qui les oblige réciproquement que de tant qu'ils peuvent tirer profit et utilité l'un de l'autre, et toutefois, nous voyons que bonté s'étend bien plus loin que ne fait justice, parce que nature nous enseigne à user d'équité et de justice envers les hommes seulement, et de grâce et de bénignité quelquefois jusqu'aux bêtes brutes. Ce qui procède de la fontaine de douceur et d'humanité, laquelle ne doit jamais tarir en l'homme. Car à la vérité, nourrir les chevaux usés et rompus de travail à notre service, et non seulement nourrir les chiens quand ils sont petits, mais aussi les alimenter et en avoir soin encore quand ils sont envieillis avec nous, sont office convenable à une nature charitable et débonnaire. Comme le peuple d'Athènes voulut et ordonna du temps que l'on bâtissait le temple appelé Hécatompédon, qu'on laissât aller francs et libres les mules et mulets qui avaient longuement travaillé à l'achèvement de cette fabrique, et qu'on les souffrit paître sans leur faire empêchement, là où ils pourraient, et dit-on qu'il y eut une mule de celle qui avait été délivrée qui d'elle-même se vint présenter au travail, en se mettant au-devant des autres bêtes de voiture qui traînaient les chariots chargés vers le château, en marchant avec elles, comme si elle les eût voulu inciter et encourager à tirer. Ce que le peuple prit tant à gré, qu'il ordonna qu'elle serait nourrie aux dépens de la chose publique, tant qu'elle vivrait. Et voit-on encore les sépultures des juments de Simon, avec lesquelles il gagna par 3 fois le prix de la course aux Jeux olympiques, et sont les dites sépultures, tout joignant celle de Simon. Aussi trouve-t-on plusieurs qui ont inhumé des chiens, qui avaient été nourris avec eux ou qui leur avaient toujours fait compagnie, comme, entre autres, l'ancien Xantippe enterra son chien sur un chef en la côte de la mer, que l'on appelle encore aujourd'hui le chef de la sépulture du chien, parce que quand le peuple d'Athènes, à la vue des Perses, abandonna la ville, ce chien suivit toujours son maître, nageant en mer, côte à côte de sa galère, depuis la côte de terre ferme jusqu'en l'île de Salamine. Car il n'est pas raisonnable d'user des choses qui ont vie et sentiment, tout ainsi que nous ferions d'un soulier ou de quelque autre ustensile, en les jetant après qu'elles sont toutes usées et rompues de nous avoir servi. Mais quand ce ne serait pour autre cause que pour nous duire et exerciter toujours à l'humanité, il nous faut toujours accoutumer à être doux et charitable jusqu'à tels petits et menus offices de bonté. Et quant à moi, je n'aurai jamais le cœur de vendre le bœuf qui aurait longuement labouré ma terre, parce qu'il ne pourrait plus travailler à cause de sa vieillesse, et encore moins un esclave, en le chassant, comme de son pays, du lieu où il aurait longtemps été nourri et de la manière de vivre, qu'il aurait de longues mains accoutumé pour un petit d'argent que j'en pourrais retirer en le vendant. Lorsqu'il serait autant inutile à ceux qui l'achèteraient comme à celui qui le vendrait.